France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Après l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, la France reconnaîtra lundi prochain officiellement l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Mais la reconnaissance d'un État ne se limite pas à un geste diplomatique, elle relève surtout de rapports de force. Alors de la Palestine au Kosovo, de Taïwan au Sahara occidental, cet acte à la fois symbolique mais surtout politique révèle les équilibres internationaux, symboliques ou politiques. Quelle est l'utilité réelle, fondamentale de ce processus? Quelle stratégie est mise en place pour les États en quête de reconnaissance et pour quels effets? Pour nous éclairer, une invitée ce soir, Insa Frezaghi. Bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes docteur en droit international public à l'Université Paris-Cité, membre du collectif de recherche IAANI et chercheuse associée à l'Institut français pour le Proche-Orient à Jérusalem. Merci d'être présent ce soir dans Question du soir.
La création d'un État palestinien consécutive à la libération des otages, à la démilitarisation du Hamas, à la non-participation du Hamas dans celui-ci, à la réforme de l'autorité palestinienne et la création d'une architecture de sécurité dans toute la région sont le seul aboutissement souhaitable pour la sécurité de tous. Et donc c'est pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique et je crois aussi un vrai réalisme. Et donc s'il n'y a pas une réponse qui est à la hauteur de la situation humanitaire qui est apportée dans les prochaines heures et les prochains jours, bien évidemment qu'il faudra durcir la position collective et appliquer des sanctions.
Le président de la République, Emmanuel Macron, il s'exprimait à Singapour le 30 mai dernier, Insa Frezaghi. La diplomatie française explique que cet acte de reconnaissance a pour pilier fondamental la mise sous pression de l'État d'Israël. Comment est-ce que vous analysez cet argument ?
L'annonce par Emmanuel Macron de reconnaître avec un certain nombre d'autres États occidentaux l'État de Palestine, c'est toujours une bonne chose et on doit s'en satisfaire parce que de fait l'État de Palestine existe, il a une réalité juridique aujourd'hui très très concrète, il remplit les critères pour être un État. Toutefois, on est vraiment sur du registre du symbolique. Dans le contexte de la commission de crimes de masse dans la bande de Gaza, c'est pas la reconnaissance de l'État de Palestine qui va permettre demain à Benjamin Netanyahou d'arrêter sa politique de nettoyage ethnique dans la bande de Gaza, et c'est pas la reconnaissance d'un État de Palestine en Cisjordanie notamment qui vont arrêter la politique coloniale. Donc on est vraiment sur le registre du symbolique, c'était important de le faire. Ça arrive certainement trop tard, parce que l'annexion aujourd'hui de l'intégralité du territoire palestinien est constatée, y compris par les juridictions internationales, mais il fallait le faire. En revanche, tant qu'on ne le conditionne pas à des sanctions très concrètes contre le gouvernement israélien, on va pas avancer dans la capacité aujourd'hui à faire cesser les hostilités dans la bande de Gaza.
En vous écoutant, je devine la réponse qui vient. L'Espagne, l'Irlande, la Norvège, on l'a dit, ont reconnu l'État de Palestine l'an dernier. En 2024, qu'est-ce que cela a changé concrètement ?
La vague de reconnaissance européenne qui a eu lieu par notamment l'Espagne qui a pris un peu le leadership de cette reconnaissance était importante parce que elle a aussi contraint à imposer un débat au sein de l'Union européenne sur la question de la reconnaissance de l'État de Palestine qui jusqu'à présent était renvoyé à des négociations politiques entre la puissance occupante israélienne et l'autorité palestinienne. Donc ça a permis de réouvrir un débat au sein de l'Union européenne et de contraindre l'Union européenne à se positionner. Ça a aussi permis de mettre en évidence le fait qu'aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, il n'y a pas d'unanimité sur la question de l'État, sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Vous avez à peu près 3 blocs aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Il y a déjà 11 États membres qui reconnaissent l'État de Palestine. Vous avez un bloc donc porté par l'Espagne qui veulent que l'Union européenne reconnaisse l'État de Palestine. Vous avez un second bloc qui est porté par la France qui dit depuis 20 ans on veut bien reconnaître l'État de Palestine mais on attend le moment opportun sans jamais définir ce qu'on entendait par opportun et sans jamais fixer de calendrier. Et on a un troisième bloc porté par l'Allemagne et les Pays-Bas notamment, qui refusent catégoriquement de reconnaître l'État de Palestine sans accord entre Israéliens et Palestiniens. Donc l'Espagne a permis de réouvrir ce débat et de mettre en évidence un certain nombre de divisions européennes. En revanche, à la différence de la France, c'est que l'Espagne va plus loin que la simple reconnaissance. Elle dit on reconnaît, mais maintenant on doit aussi se conformer au droit international. Donc on adopte un certain nombre de sanctions et de mesures coercitives à l'égard d'Israël. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez encore récemment avec, par exemple, un embargo sur les armes. Il constate l'incapacité de l'Union européenne à adopter des mesures. Et donc, il se dit, nous, au niveau bilatéral, on va en adopter parce que j'ai une obligation en tant que Premier ministre espagnol de me conformer au droit international. Et c'est ce qu'il a fait en l'annonçant récemment. Un certain nombre d'autres États l'ont annoncé, la Belgique également. Mais la France, jusqu'à présent, dans les discours d'Emmanuel Macron, dans cette feuille de route posée aux Nations Unies, il n'évoque à aucun moment la possibilité d'adopter des sanctions contre l'État israélien.
Comment comprendre que la diplomatie française, qui depuis plusieurs décennies maintenant défend l'approche de la solution dite à deux États, met tant de temps à reconnaître justement l'État de Palestine? Est-ce qu'il s'agit là d'une duplicité? Est-ce qu'il y a une incohérence fondamentale ou bien quelque chose d'une cohérence que l'on ne verrait pas?
Je pense qu'il y a une forme d'hypocrisie de la part de la France sur la question de la reconnaissance de l'État de Palestine. C'est-à-dire que depuis la fin des années 90, en gros, la France affirme qu'il existe un droit fondamental du peuple palestinien à l'autodétermination et que la réalisation de ce droit passe par l'établissement d'un État de Palestine sur les lignes de 67, donc Cisjordanie, Jérusalem-Est et bande de Gaza. Sans jamais aller au-delà du simple déclaratif, c'est-à-dire en reconnaissant l'État de Palestine. Là où il y a une forme d'hypocrisie, c'est que elle prône l'établissement de la solution à deux États, mais elle n'a jamais été au bout de sa démarche en reconnaissant l'État de Palestine et en tout cas en permettant concrètement sa réalisation, parce que la reconnaissance ne suffit pas à établir un État. Si vous estimez qu'il existe un État de Palestine, ben dans ce cas-là, vous sanctionnez le fait qu'un autre État veuille occuper et s'accaparer le territoire d'un État que vous reconnaissez et qui devrait être souverain sur son territoire. Et en ce sens, la position de la France est par exemple quand même, à mon sens, un peu plus hypocrite que l'Allemagne, qui elle dit clairement on ne reconnaît pas l'État de Palestine. La décision de reconnaître appartient finalement à une discussion politique entre Israéliens et Palestiniens. Donc nous, à ce stade, on continue de soutenir Israël de manière inconditionnelle, on continue de lui livrer des armes, et ça, on l'assume. Alors que la France est sur un double discours pour satisfaire à la fois son opinion publique qui est de plus en plus vent debout contre les crimes de masse à Gaza, et qui en même temps doit préserver son alliance avec Israël, notamment son alliance économique.
Même si l'Allemagne est en partie revenue sur justement ses livraisons d'armes à Israël actuellement, il faut nous éclairer, Nsa Frezaghi, sur la distinction entre deux notions, l'existence d'un État et la reconnaissance. Qu'est-ce qui les différencie et comment on définit l'un et l'autre ?
Oui, c'est une bonne question parce que souvent on fait un peu la confusion en disant la Palestine n'existe pas parce qu'on la reconnaît pas comme telle. Ça, c'est faux parce que d'un point de vue du droit international, l'existence d'un État n'est pas conditionnée à sa reconnaissance par les autres États. L'existence d'un État...
C'est ce qu'on dit souvent, effectivement. Pour exister, dans le fond, il faut être reconnu par les autres.
Oui, et ça, c'est parce qu'on en fait une question politique alors que le droit international dit très clairement l'existence d'un État est conditionnée au fait de disposer de trois critères constitutifs de l'État, à savoir le fait de disposer d'un territoire, donc là, en l'occurrence, le territoire palestinien, le fait d'avoir une population, donc le peuple palestinien, et d'avoir un gouvernement en capacité d'administrer le territoire en question, donc l'autorité palestinienne reconnue comme gouvernement officiel du peuple palestinien. Et donc, d'un point de vue du droit international, il existe un État de Palestine. Les critères sont parfaitement remplis, sont reconnus, les juridictions internationales le disent. L'État de Palestine a adhéré à une centaine de traités multilatéraux, elle est membre de 21 organisations internationales, dont la Cour pénale internationale. Elle est reconnue par 147 des 193 États membres, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est vrai que d'un point de vue politique, si vous voulez achever votre intégration sur la scène internationale, vous êtes obligé d'être reconnu et admis en tant qu'État membre des Nations Unies. Parce que c'est là que se passe finalement le jeu politique sur la scène internationale. Et c'est là qu'on arrive au deuxième problème, qui est que la reconnaissance qui était censée être déclarative, donc on constate l'existence d'un État, devient finalement un peu constitutive parce qu'on se dit, tant que la Palestine n'est pas admise en tant qu'État membre, finalement elle ne fait pas partie pleinement du jeu international. Sauf que pour être admis aux Nations Unies, il y a un double filtre. Il y a le filtre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, on sait qu'au sein du Conseil de sécurité, on a 5 États membres qui disposent d'un droit de veto. Parmi ces États membres, il y a les États-Unis qui sont un allié d'Israël. Et donc, ils ont encore récemment, en 2024, ils bloquent toute possibilité d'adhésion de l'État de Palestine.
Vous écrivez dans la revue en ligne The Conversation, la reconnaissance revêt un caractère essentiellement symbolique dans la mesure où elle a une valeur déclarative et non constitutive. Si vous faites l'exégèse de votre propre texte, qu'est-ce que cela veut dire ?
Ça veut dire que, en théorie, la reconnaissance, c'est un État qui dit qu'il veut reconnaître l'entité en face de lui comme État, comme État et qu'il veut entrer en relation juridique bilatérale avec lui. Donc, il va entretenir des relations diplomatiques, financières, économiques, politiques d'État à État. Donc ça, d'un point de vue théorique, c'est ça la reconnaissance. Mm-hmm. Sauf qu'on se rend compte que dans la pratique, comme le droit international est avant tout politique et qu'il est fait par les États en font un peu ce qu'ils veulent. Et dans le cas de la Palestine, ils ont décidé que la Palestine sera pleinement un État le jour où elle sera finalement pleinement intégrée à la société internationale et donc un État membre des Nations Unies. L'autorité palestinienne l'a très bien compris. C'est pour ça qu'elle a lancé une stratégie finalement d'internationalisation de la question palestinienne en allant mobiliser les Nations Unies. Pour l'instant, elle a atteint un plafond de verre, c'est-à-dire qu'elle a tous les droits possible et inimaginable, sauf celui qui est consubstantiel au statut d'État membre, à savoir le droit de vote aux Nations Unies, ce qu'elle ne peut pas avoir parce qu'elle n'est pas un État membre pour l'instant.
On l'a dit, hein, la France reconnaîtra par la voix d'Emmanuel Macron l'État de Palestine lundi dans le cadre d'une Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Est-ce que c'est l'unique, le seul moyen qui existe aujourd'hui pour reconnaître un État ou il en existe une myriade ?
C'est l'autre point de la reconnaissance d'un point de vue du droit international, c'est qu'il n'existe aucun formalisme pour reconnaître.
Il n'y a pas de procédure
écrite dans une convention internationale qui dit pour reconnaître un État, il faut adopter une loi ou un décret ou etc. Il y a 20 millions de façons de reconnaître un État. Ça peut être une reconnaissance implicite, comme ça peut être une reconnaissance explicite. Et c'est pour ça aussi que dans le cas de la France, c'est d'autant plus symbolique que dans les faits, la France reconnaît déjà l'État de Palestine. Et tous les indicateurs le prouvent. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui la représentante de l'autorité palestinienne en France qui a le rang d'ambassadrice. Vous avez un consulat de France à Jérusalem qui fait office d'ambassade, donc qui délivre des visas aux Palestiniens qui souhaitent venir, par exemple, étudier en France. Et surtout, la France a toujours voté en faveur de tous les rehaussements statutaires de l'État de Palestine aux Nations Unies. Le 28 mai 2024, elle a, par exemple, voté en faveur de l'admission de la Palestine aux Nations Unies. Elle a voté en faveur de l'admission de la Palestine à l'UNESCO en 2011, en disant c'est un État membre de l'UNESCO. Donc, et elle entretient des relations bilatérales très fortes avec l'autorité palestinienne qui sont assez similaires aux relations qu'on entretient d'autres États dans la région, le Liban, la Jordanie, etc.
Donc elle le reconnaît de fait depuis des années, depuis des décennies même.
Oui, elle le reconnaît visiblement depuis une quinzaine d'années, depuis qu'à partir de 2011, elle s'est mise à voter en faveur de la plupart des résolutions aux Nations Unies et notamment l'admission en octobre 2011 de la Palestine à l'UNESCO.
Je voudrais, Insaf Rezaei, grâce à vous, qu'on s'intéresse à d'autres exemples, d'autres cas qui nous permettent de comprendre ce qu'implique, ce qu'impose la reconnaissance d'un État. Commençons par Taïwan, justement, situation très particulière et son impossible reconnaissance par la Chine.
La Chine a activement tendu la main aux hommes politiques de Nauru et a utilisé des aides économiques pour inciter le pays à changer de reconnaissance diplomatique.
La décision de Nauru de rétablir des liens diplomatiques avec la Chine montre une fois de plus que le monde et l'histoire s'orientent vers le principe d'une seule Chine. La Chine est prête à travailler avec Nauru pour ouvrir de nouveaux chapitres de nos relations bilatérales.
Bon, j'ai bien écouté ce que vous avez dit, Insaf Rezaei. Taïwan, ça existe, hein, c'est un territoire avec un peuple, une armée, des institutions. Donc l'État de Taïwan existe et pourtant la Chine ne reconnaît pas cet État. Qu'est-ce que cela signifie ? La Chine ne voit pas le réel ou c'est simplement une décision politique ?
C'est l'exemple de Taïwan comme l'exemple de la Palestine, comme l'exemple du Kosovo finalement, c'est le reflet que la reconnaissance est devenue un outil politique aux mains des grandes puissances aujourd'hui.
Des grandes puissances en particulier.
Des grandes puissances qui sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire que pour la Palestine au sein du Conseil de sécurité, le blocage provient des États-Unis, pour le Kosovo, le blocage provient de la Russie, et dans le cas de Taïwan, le blocage provient de, comme on l'a entendu, de la Chine, qui dans les trois situations finalement empêche toute possibilité de ces États intégrer pleinement la société internationale. Et là, on se rend bien compte que finalement, le Conseil de sécurité, tel qu'il a été conçu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec cinq grandes puissances qui se sont arrogées un droit de veto pour décider du sort des milliards de personnes sur la planète, est un système qui est aujourd'hui à bout de souffle. Parce qu'il empêche, alors que précisément l'objectif de ce système tel que bâti au lendemain de la Seconde Guerre mondiale était de permettre finalement au peuple de s'épanouir, au peuple de disposer d'eux-mêmes, comme c'est garanti dans la Charte des Nations Unies, on se rend compte qu'il y a des États qui bloquent la possibilité des peuples de disposer d'eux-mêmes et de pouvoir avoir leur État pleinement intégré dans la société internationale. Et donc, c'est pour ça aussi qu'un certain nombre d'États plaident aujourd'hui pour une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France a d'ailleurs plaidé à un certain moment pour que soit réformé un certain nombre de mécanismes au sein de cet organe politique. Ça n'a pas fonctionné, évidemment, parce que ces trois pays-là refusent tout changement des règles parce que ça leur serait défavorable. Et donc, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que la reconnaissance n'est plus simplement juridique, elle a basculé sur un terrain politique. Et donc, Taïwan est effectivement un État, le Kosovo est effectivement effectivement un État, la Palestine est effectivement un État, sauf qu'ils sont aujourd'hui empêchés d'exercer pleinement leur souveraineté.
On va en venir au Kosovo que vous évoquez. Je reste tout de même un instant sur Taïwan. Comment ce pays-là fait-il campagne justement pour tenter d'imposer la reconnaissance de son existence?
C'est un peu pareil que ce que fait la Palestine, c'est que c'est mis en place une stratégie d'internationalisation de la question. C'est qu'on va...
Et de la cause.
Et de la cause. Et donc, ces trois États-là, ces trois entités vont se servir, entre guillemets, des organisations internationales. Pourquoi ? Parce que, désormais, les organisations internationales sont elles aussi en mesure de reconnaître un État. Il n'y a pas que les États qui peuvent désormais reconnaître un État. Et donc, elles savent que en mettant ces questions-là à l'agenda international, elles peuvent plaider plus facilement pour leur cause et elles peuvent déplacer la question dans ces arènes-là. Et donc, l'objectif pour Taïwan, comme pour la Palestine et le Kosovo, c'est de parvenir à des reconnaissances. Donc, elles sont en quête de reconnaissance un peu partout dans le monde. Sauf que, évidemment, le dernier verrou possible, c'est le Conseil de sécurité dans les trois cas.
La quête de reconnaissance, c'est aussi la quête du Kosovo. Une archive qui date de 2008 et un reportage qui prend place à Pristina où des Serbes, justement, parlent de cette question.
Explosion de joie cet après-midi dans les rues de Pristina. Des dizaines de milliers d'Albanais du Kosovo viennent d'apprendre que ça y est, leur petite province a osé déclarer son indépendance après des siècles de domination ottomane, puis serbe. Passé de la Kalachnikov à la parole, le Premier ministre, Hashim Thaçi, ancien de la guérilla de Luceca, déclare devant le Parlement le Kosovo indépendant.
C'est un des plus grands moments de la vie de tout Kosovar. Et j'espère que tous les Albanais et tous les autres peuples de Kosovo se sentent aujourd'hui Kosovar.
C'est une très belle journée. C'est une journée qu'on attend depuis des siècles et des siècles.
Le Kosovo, c'est particulier, Insa Frezaghi, car c'est une reconnaissance tout à fait partielle, parcellaire même là aussi. Comment lire cette reconnaissance progressive dans l'histoire des reconnaissances que vous évoquiez?
Mais en fait, tout est une question de progressivité dans les reconnaissances, systématiquement. C'est-à-dire que pour le Kosovo, vous avez un petit nombre d'États en Europe qui vont reconnaître le Kosovo. La France en faisait partie. Mm-hmm. Elle a reconnu le Kosovo très rapidement via Nicolas Sarkozy à l'époque. Et ça reflète encore une fois tout de suite les divisions. Et donc, le fait que la progressivité de la reconnaissance est compliquée, y compris pour le Kosovo, parce que, par exemple, alors là, pour le coup, c'était l'Espagne qui bloquait et qui continue de bloquer, parce qu'elle avait peur aussi des revendications indépendantistes en Catalogne et ailleurs. Et donc, effectivement, il y a encore un jeu politique qui se met très vite en œuvre. Et face à ça, le Kosovo va tenter aussi une stratégie d'internationalisation en cherchant des alliés, notamment du côté des États-Unis, qui sont un allié aujourd'hui du Kosovo et qui l'ont reconnu comme tel. Et face à elle, il y a aussi la question de la Russie et donc l'opposition entre la Russie et les États-Unis en plein Europe aujourd'hui qui se pose. Et donc, c'est exactement ce que fait le Kosovo et ce que fait la Palestine, c'est qu'on internationalise la question en obtenant un maximum de reconnaissance par vague. Souvent, c'est par vague, y compris pour la Palestine, où on a des grands temps de reconnaissance et puis parfois, c'est très creux, il ne se passe plus rien. Et donc, on tente de remettre la question à l'agenda international. Le Kosovo, c'est aussi et tente de le faire avec l'Union européenne en essayant de plaider sa cause. Et la Palestine, elle, le fait plutôt du côté des Nations unies.
Un mot rapide sur le Sahara occidental, car il me semble que c'est aussi un objet politique intéressant en lien tout de même avec cette question de la reconnaissance d'un État. Pour rappel, il s'agit là d'une ancienne colonie espagnole sur laquelle le Maroc revendique sa souveraineté. Il y a quelques mois, Emmanuel Macron a reconnu la souveraineté du Maroc sur ce Sahara occidental. Qu'est-ce qui se joue là aussi dans ce combat politique? Qu'est-ce que ça implique de reconnaître la souveraineté d'un État sur un territoire?
Je pense que le cas du Sahara occidental est probablement celui qui se rapproche le plus de la Palestine, parce qu'on est dans une situation d'occupation et de colonisation de peuplement, dans les deux cas, où il y a une puissance occupante, donc une puissance étrangère, qui tente de s'accaparer le contrôle de ce territoire. Et le Sahara occidental est assez flagrant en la matière et très proche du cas palestinien. Et l'annonce de Macron d'une maroquinité sur le Sahara occidental est une violation du droit international, parce que le Sahara occidental est considéré comme un territoire non autonome à décoloniser. Et donc, en reconnaissant que la puissance occupante marocaine a finalement une souveraineté sur ce territoire, Emmanuel Macron a clairement violé le droit international, mais il n'en est pas à une violation près, parce que sur la Palestine, il le fait également en ce moment avec, par exemple, la possibilité pour Benjamin Netanyahou de survoler le territoire français alors qu'il est reconnu comme fugitif par la Cour pénale internationale. Et donc le Sahara occidental se retrouve exactement dans le même cas que la Palestine, donc elle est empêchée dans le contrôle de son territoire, donc elle ne dispose pas d'une effectivité gouvernementale, ce qui entrave finalement sa capacité en tant qu'État à pleinement administrer sa population, son territoire. territoire, etc. Et c'est vrai que le Sahara occidental va tenter finalement, elle aussi, d'internationaliser sa cause via le Front Polisario, qui est le représentant de la lutte du peuple sahraoui, en se tournant vers d'autres alliés, notamment l'Algérie, et en tentant d'obtenir gain de cause auprès d'un certain nombre d'États. Mais il est vrai que pour le cas du Sahara occidental, on est plutôt en recul, parce que le Maroc a réussi finalement à imposer ses vues à la fois du côté des États-Unis en échange d'un accord avec Israël de normalisation des relations avec Israël. Et la France a également récemment, un peu sorti de nulle part, décidé de reconnaître cette marocinité sur le territoire sahraoui.
La Chine pour Taïwan, Israël pour la Palestine, la Serbie et l'Albanie pour le Kosovo, l'Algérie pour le Sahara occidental. J'ai fait ça pour le Maroc. L'Algérie pour le Sahara occidental, justement, qui refuse la marocinité du Sahara occidental. Est-ce que vous identifiez dans ces pays qui refusent des reconnaissances une stratégie commune dans les voies et moyens de faire campagne, justement?
Oui, il y a forcément une internationalisation. Après, il est vrai que l'État de Palestine est certainement celle qui a sa stratégie la plus aboutie. On peut vraiment véritablement parler de stratégie. Par exemple, pour le Front Polisario, il y a des tentatives d'internationaliser sa cause, mais elle est tellement sous pression et acculée de toutes parts par le Maroc qu'elle a beaucoup de mal finalement à trouver des alliés sur la scène internationale, et puis un désintérêt complet de la société internationale pour cette question, alors que là, tous les yeux sont rivés effectivement sur Gaza en raison de la commission d'un génocide en cours. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'État de Palestine arrive à utiliser le droit international et les organisations internationales pour faire valoir un certain nombre de revendications, alors qu'il est vrai que le Sahara occidental, qui est pourtant dans une situation aussi d'occupation et de colonisation, a beaucoup plus de mal à faire valoir ses vues. Mais il faut le comprendre aussi au regard des intérêts entre le Maroc et l'Union européenne, qui sont des liens qui sont très forts, et entre le Maroc et les États-Unis et le Maroc et Israël.
Si on se concentre sur la stratégie israélienne, justement, pour empêcher, éviter la reconnaissance de l'État de Palestine, que penser de ces lettres que le Premier ministre israélien a envoyées à tous les représentants des États qui se lançaient dans cette procédure, même si c'est pas le bon terme, et notamment l'accusation d'antisémitisme? Comment vous l'analysez ?
Sur l'accusation d'antisémitisme, c'est un peu toujours la même chose qu'on analyse, c'est que dès qu'il y a une tentative de critique de la politique d'occupation et coloniale israélienne, face à ces critiques-là, il y a un narratif israélien qui se met en place. La France n'est pas la première à subir les foudres de ce narratif. Avant ça, vous avez eu la Cour pénale internationale, les procureurs successifs de la CPI, les trois qui se sont succédés sur le dossier palestinien ont été accusés d'antisémitisme. Vous avez eu carrément le procureur général israélien qui a émis un mémorandum qui fait office de doctrine d'État, dans lequel il accuse pendant une vingtaine de pages la CPI d'être antisémite. L'Espagne et le Premier ministre espagnol en ont fait les frais, etc. Donc à chaque fois que vous avez une tentative internationale, soit au niveau étatique, soit au niveau des organisations internationales, de critiquer ou de remettre en question les politiques coloniales et la guerre aujourd'hui à Gaza, on a un narratif qui se met en place face à ces critiques. Donc c'est assez récurrent, et la France n'y échappe pas, parce que de fait elle a pris le lead en fait en ce moment sur la vague de reconnaissance à venir. C'est elle qui est en train de convaincre un certain nombre d'États, le Canada, la Belgique et d'autres, de reconnaître l'État de Palestine.
Mais tout de même, si ces reconnaissances prennent du temps, prennent énormément de temps, n'est-ce pas aussi parce que l'autorité palestinienne est faible, faible politiquement, et parce que même les institutions, les moyens de représenter le peuple palestinien en Palestine sont, par construction, extrêmement faibles pour le moment?
Mais l'autorité palestinienne est faible parce qu'Israël fait en sorte qu'elle soit faible aujourd'hui. Elle fait en sorte qu'elle n'ait pas de voix au chapitre dans la question de la reconnaissance. Alors, évidemment, l'autorité palestinienne est une institution qu'il faut critiquer, remettre en question. Elle a des politiques autoritaires vis-à-vis de sa population. Elle ne se préoccupe pas des droits fondamentaux de son peuple. Et elle collabore d'un point de vue sécuritaire avec l'État d'Israël en Cisjordanie, en arrêtant un certain nombre de Palestiniens sur la demande d'Israël. Mais, en fait, ça ne nous concerne pas d'un point de vue de la reconnaissance. On n'a pas à s'ingérer dans les affaires intérieures d'un État. On n'a pas à s'ingérer sur la manière dont la forme politique ou constitutionnelle que prend le gouvernement d'un État. Donc on n'a pas à s'ingérer dans ces questions-là. Et donc ce n'est pas un prétexte quand l'autorité palestinienne est faible. On ne peut pas dire parce qu'elle est faible, on ne reconnaît pas l'État de Palestine. On reconnaît un État parce qu'il remplit trois critères déterminés par le droit international, et c'est tout. Et c'est vrai qu'Israël a depuis quelques années, et il le fait systématiquement avant l'autorité, c'était l'OLP d'Yasser Arafat. Aujourd'hui c'est l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Il a une stratégie de décrédibilisation des, des opposants politiques en Palestine. Dès qu'il sent qu'il y a un interlocuteur palestinien crédible sur la scène internationale, il lance une opération de décrédibilisation de l'acteur politique. Yasser Arafat en a fait les frais, Mahmoud Abbas en fait les frais, Marwan Barghouti en fait les frais, un certain nombre d'autres figures politiques palestiniennes en ont fait les frais, tous bords confondus aujourd'hui en Palestine.
On a bien compris, Nsaf Rezaghi, que la décision de la France de reconnaître l'État de Palestine était d'abord et avant tout symbolique. Est-ce que tout de même les Palestiniens peuvent se réjouir, et notamment je pense aux Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, peuvent se réjouir de cette décision où elle n'est que pur symbole et n'apportera rien si elle n'est pas adossée à d'autres décisions comme des sanctions?
Je crois qu'il n'y a rien qui nous permette aujourd'hui de nous réjouir d'une telle reconnaissance. Un, parce que cette reconnaissance, elle n'a jamais été faite dans le cadre d'une consultation du peuple palestinien, qui n'a jamais été consulté sur son avenir politique. Et deux, elle ne va pas empêcher aujourd'hui le fait qu'on a une annexion de l'intégralité du territoire palestinien, que vous avez 800 000 colonies qui sont partout dans le territoire, qu'il y a un régime militaire qui est en place avec plus de 10 000 Palestiniens aujourd'hui qui sont dans des prisons militaires israéliennes en violation totale du droit international, que l'accaparement des ressources naturelles et des terres palestiniennes jamais été aussi importante, qu'il est devenu impossible, voire impossible de circuler d'une ville à l'autre en Cisjordanie, et que surtout il y a un génocide en cours dans la bande de Gaza avec un nombre incalculable de victimes, et que Gaza est en train d'être rasé complètement de la surface de la Terre en ce moment même avec la dernière phase du plan qui a été annoncé par Netanyahou.
Merci beaucoup, Nsaf Rezaghi, docteur en droit international public à l'Université Paris-Cité, membre du collectif de recherche Yahani, chercheuse associée à l'Institut français pour le Proche-Orient à Jérusalem. Et merci à celles et ceux qui ont pensé, construit avec moi cette émission. Rodi Eken, Bertie Bourdon, Roxane Poulain, c'était Margot Page à la réalisation et Dalia à la technique.